J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Lumbuma au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi qui vous accorde la parole. Du 12 au 14 mai dernier à Mascate, l'UNESCO a organisé la réunion mondiale sur l'éducation pour tous. Dans son allocution, la directrice générale de l'Agence onusienne pour l'éducation, Irina Bokova, a salué les performances et les réalisations de la RDC dans les domaines de l'éducation qui tendent à bâtir un système éducatif plus efficace. Madame Irina a plaidé pour que ces progrès réalisés en RDC et appréciés par les partenaires soient partagés et répliqués dans d'autres États. Comment alors capitaliser cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues dans les secteurs de l'éducation à l'RDC? Vous pouvez nous rejoindre pour participer à ce débat à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez la possibilité de nous appeler au 081 890 63 15 et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Noëlla Luzitou réalise cette émission mise en onde par Paul Badianyama et présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition des écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons en ligne Monsieur Maker Mwangu, ministre de l'EPSP. Bonjour, Excellence.
Bonjour, cher ami JR.
Voilà, monsieur le ministre, quel sentiment avez-vous sur cette appréciation de l'extérieur quant aux avancées réalisées dans les systèmes éducatifs de la RDC?
Bon, c'est un sentiment de... un sentiment de joie, un sentiment de devoir aussi, parce que bon, quand du haut de la tribune de Nations Unies comme ça, au niveau de... quand on réunit beaucoup de pays à Mascate et on apprécie les efforts qui sont réalisés par la République démocratique du Congo. Je crois que c'est quand même un bon signe. Donc c'est une mission, il faut la poursuivre et il faut garder les caps pour que demain, après-demain, effectivement, qu'on sente un changement dans le système éducatif congolais.
Voilà, alors pour des communs des mortels, s'ils peuvent se faire une idée sur ces avancées, quelles sont concrètement ces performances et réalisations à mettre à ces jours à l'actif de ce processus autour de l'amélioration du système éducatif en RDC?
Le plus grand problème qui a fait l'objet des attentions de la communauté mondiale sur la République démocratique du Congo, c'est surtout le problème de la mobilisation des ressources. La communauté mondiale ne comprend pas comment un pays si décrié, quand vous suivez la presse étrangère, c'est toujours des problèmes au niveau de la démocratie du Congo. Comment ce pays qui, dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de problèmes, mais comment ce pays arrive à mobiliser les ressources au niveau national, à faire de l'éducation la priorité, à mobiliser les ressources au niveau national et à mobiliser aussi les ressources au niveau international? C'est quoi? Qu'est-ce qui se fait au niveau interne pour qu'on arrive à atteindre ces résultats? Et cette mobilisation des ressources nous a amené à atteindre un certain nombre d'objectifs en ce qui concerne l'accès. Nous sommes en train d'améliorer le nombre d'enfants dans nos écoles. En ce qui concerne la qualité, peut-être ne s'en rend pas compte, il n'y a pas longtemps, nous avons fait venir le responsable de la francophonie pour faire une évaluation couramment appelée évaluation PASEC, qui nous ont donné des résultats plus ou moins encourageants sur l'amélioration de la qualité au niveau de notre système éducatif et même la gestion. Donc, ils sentent que beaucoup d'indicateurs au niveau de la République démocratique du Congo sont en train de s'améliorer, alors que ce qu'on décrit souvent à l'extérieur, c'est comme si ici les choses n'évoluaient pas. Alors que ici, nous avons une vision claire. Le président de la République a fait sa campagne autour d'un programme, et ce programme, la première priorité, c'est l'éducation, faire du Congo un pôle d'intelligence. Et pour ça, donc, le gouvernement a mis en place un dispositif, a mis en place des mécanismes pour qu'on arrive à atteindre cet objectif. Ils ont beaucoup apprécié aussi ces programmes de construction de 1000 écoles à travers toute la République. Donc, ils ont beaucoup apprécié ça, et ils trouvent que c'est un exemple que nous pouvons partager avec d'autres ministres de l'éducation à travers le monde.
Alors, comment aujourd'hui capitaliser cette appréciation? Et vous, en tant que ministre, quels sont les défis qui restent à relever?
Oui, les défis sont encore énormes. Quand je parle par exemple de l'accès, c'est vrai que nous avons récupéré beaucoup d'enfants qui étaient en dehors de l'école, qui sont en train de rentrer à l'école, mais nous en avons encore beaucoup. Les dernières statistiques que nous avons réalisées avec l'UNICEF nous démontrent que de 6 à 12 ans, nous avons encore près de 3 500 000 enfants en dehors de l'école. Donc c'est un défi pour nous, nous devons tout faire, nous devons continuer la politique de la gratuité que le président de la République a prônée depuis le mois d'août 2010. Nous devons terminer avec la gratuité pour que nous arrivions à récupérer ces 3,5 millions d'enfants qui sont encore en dehors de l'école. Nous avons un grand défi en ce qui concerne la formation des enseignants. Les salaires de nos enseignants étant modestes, nous prenons les enseignants dans leur tas. Et donc, nous devons mettre l'accent sur la formation continue des enseignants. Nous devons avoir à travers la République des centres de formation pour que nous donnions à nos enseignants ne fût-ce que la bonne pratique et la mauvaise, éviter la mauvaise pratique des classes et leur donner la bonne pratique des classes pour qu'ils améliorent leurs prestations devant les élèves. Nous avons encore un problème de gestion du système. Nous devons tout faire pour que les bureaux gestionnaires, que nous-mêmes au niveau du ministère, qu'on mette en place un dispositif beaucoup plus efficient, qui nous permettent avec peu de ressources d'atteindre de bons résultats, d'impliquer toutes nos communautés afin que tout le monde se sentant concerné puisse produire les bons résultats afin que demain, après-demain, on ait un système éducatif beaucoup plus compétitif.
Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, la qualité de l'enseignement en RDC fait l'objet de débats. Quelque part, il y a des performances, il y a des réalisations, mais s'il faut mettre l'accent sur cette qualité qui est parfois décriée par certaines personnes, parce qu'on dit qu'il y a toujours des gradations au niveau de la qualité, est-ce que vous, en tant que ministre, vous partagez cet avis?
Bon, je ne partage pas cet avis. C'est vrai que, bon, souvent nous, les Congolais, nous avons toujours tendance à penser que quand ce n'est pas bon, donc c'est bien. Donc on est content quand on donne le résultat que c'est pas bon. Ce n'est pas nous qui avons demandé à la directrice générale de l'UNESCO de dire que ici ça marche et de comparer ça avec d'autres pays à travers le monde. Non, ce n'est pas nous qui lui avons demandé de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont entrepris et ils apprécient ces efforts. Ils ne disent pas que nous avons atteint les résultats. Nous avons d'ici 2015 les objectifs du PNR pour le développement, nous devons les atteindre. Ils n'ont pas dit que nous allons les atteindre. Mais la directrice générale dit que le Congo est en train de faire d'énormes efforts et si on poursuit comme ça, donc on pourra atteindre ces objectifs. Ils apprécient les efforts qui sont en train d'être entrepris au Congo, qui nous donnent déjà des résultats assez palpables, assez encourageants. C'est ça le message qui a été mené par la directrice générale de l'UNESCO et le Son Excellence le Premier ministre qui était invité, l'invité d'honneur à cette réunion a fait un discours qui a fait plaisir à tout le monde. Et vous donner cet honneur, demander au Premier ministre, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, de partager l'expérience du Congo aux autres parties de l'humanité, c'est quand même une fierté pour le Congo. Donc ça, il faut quand même le dire. Il ne faut pas qu'on pense que quand on dit que ça ne va pas au Congo, donc c'est bon. Non, c'est pas bien. Ici, la communauté mondiale trouve qu'il y a quelque chose de bon qui s'est fait. Ce n'est pas qu'on a atteint les résultats, mais que nous sommes en voie d'atteindre ces résultats. Ils apprécient ces efforts. Je crois que c'est quand même une bonne chose. Et nous, c'est un devoir. Nous devons continuer, multiplier les efforts pour que finalement, on atteigne aussi, comme d'autres pays, des objectifs du millénaire pour le développement qui seront évalués d'ici 2015.
Voilà,
dans moins de 1000 jours.
Alors, on va passer au standard, mais permettez-nous d'abord de rappeler que dans son intervention, parce que le Premier ministre était l'invité d'honneur de ces assises, dans son intervention de clôture, le Premier ministre a notamment souligné le progrès accompli en matière d'ailleurs de scolarisation et d'alphabétisation en RDC ces dernières années. Ainsi, le taux brut des scolarisations a progressé de 83,7% en 2007 à 101% en 2012 en école primaire pour des effectifs qui sont passés de 8 millions d'élèves à 12 millions sur la même période. De véritables avancées. Franck, vous êtes à Vienne. Théodore, vous êtes à Mbujimayi. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Respectueuses salutations aussi à son excellence, monsieur le ministre de l'EPSP. Et aussi à tous les amis fidèles de la radio Capi, particulièrement des PA.
Voilà, alors comment, la plus grande question, comment capitaliser cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues dans les secteurs de l'éducation à l'RDC?
Merci beaucoup pour la parole. D'abord, nos sincères félicitations et encouragements à ceux qui ont été représentés notre pays à ces assises de l'UNESCO, tenues à Mascate. Ça nous réjouit d'apprendre que le système éducatif de notre pays est proposé comme modèle et aussi plein succès pour la note d'excellence arrachée. Parce que dans la plupart des cas, quand on parle de la RDC, dans certains classements, on est un peu déçu de nous voir souvent sur les dernières places ou quoi. Mais avant de mettre mon point de vue, j'ai d'abord une question que je veux directement adresser à notre excellence, comme il est là directement au studio. Je veux d'abord savoir quels sont ces critères ou quels sont ces critères dont on a tenu compte pour cette évaluation ou ce classement. Parce que si j'ai encore bonne mémoire, entre 2012 et 2013, il y a eu deux listes publiées sur les meilleures universités africaines. Mon objection ne se situe pas sur le concept université meilleure, mais c'est plutôt au niveau du contenu de ces deux listes. Sur les deux listes, la première contenait 40 universités et la deuxième contenait une cinquantaine d'universités, mais sur les deux listes, il n'y avait aucune université de la République démocratique du Congo. Ça nous a quand même surpris, on était déçus. Et nous savons que l'université ne peut pas donner une formation d'excellence si la base, qui est l'école primaire, le maternel, n'est pas en place. Puis pour l'instant, dans beaucoup de pays de Schengen, il y a des compatriotes congolais de la RDC, de certaines facultés, surtout ceux de la médecine humaine, à qui on exige parfois de tout reprendre. Je me réfère ici au cas des amis qui sont en Belgique, il y en a qui suivent, qui peuvent aussi le témoigner, au cas des amis qui sont en Autriche, en Allemagne, et j'ai deux amis au Canada qui se sont, à qui on a obligé de reprendre tout ce qu'ils avaient fait au Congo. Alors, c'est justement d'abord par rapport à cet aspect que je cherche à savoir ces critères dont ils ont tenu compte pour donner à la RDC cette note, si c'est par rapport à ce qui s'est dit. Puis des deux, je vais peut-être rappeler à notre ministre, parce qu'il est là, nous savons qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts. Il est souvent là, il nous écoute et on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui s'améliorent. Mais, monsieur le ministre, la RDC, avec ses plus de 2 millions de kilomètres carrés, a encore besoin d'avoir des établissements scolaires, et surtout des établissements scolaires qui répondent aux normes standards internationales. Je suis en contact avec certains confrères, certains amis qui sont des prêtres, qui travaillent en collaboration avec la Caritas, qui sont impliqués dans la réhabilitation ou dans la construction de certaines écoles. 1000 écoles pour un pays comme la RDC, c'est quelque chose, on ne peut pas vraiment dire le contraire. Toutefois, vu l'étendue du pays, vu le nombre des établissements scolaires à réhabiliter, et surtout, vu l'état de délabrement dans lequel se trouve la plupart de nos écoles, surtout celles de l'intérieur, nous avons encore du chemin à faire. Et il serait peut-être mieux qu'on se réfère aussi plus sur les réalités de ces gens qui sont en dehors de Kinshasa, qui sont en place. Parce que si vous devez partir de Kinshasa pour Kikwite, il n'y a pas plus de 15 écoles qui ont vraiment des infrastructures.
Oui, Franck, si vous pouvez déjà chuter, oui.
Je m'excuse, monsieur le journaliste.
Oui,
je finis directement.
Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de
questions
qui attendent.
Ma question, mon objectif, c'est comment comprendre qu'on parle de cette performance de notre système éducatif à RDC, d'une part, et d'autre part, qu'on remette en question les diplômes, les certificats émis par certains établissements scolaires de la RDC dans d'autres pays par le même structure de l'UNESCO.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Nous prenons Théodore qui est à Mbujimaï. Bonjour, Théodore.
Bonjour, Gérard.
Voilà, Franck a bien salué et félicité ces avancées qui ont été appréciées par la réunion mondiale sur l'éducation pour tous. Alors, vous avez la parole, Théodore. Comment faire pour capitaliser cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues dans les secteurs de l'éducation RDC?
Merci pour la parole. Quand on parle de l'éducation pour tous, pour moi, je comprends que le gouvernement met des moyens pour les infrastructures en construisant des écoles dans les milieux urbains, tout comme dans les milieux ruraux. mais de manière à amener les enfants au niveau primaire, secondaire et universitaire, sans oublier surtout les personnes âgées, les adultes qui n'avaient pas étudié, les analphabètes. Il faut s'y penser à eux. Mais si nos partenaires étrangers parlent de performance scolaire, je ne sais pas à quel niveau parlent-ils, parce que nécessairement, il fallait que les études soient moins coûtées ici au Congo, surtout les taux des niveaux de Minerval dans les écoles privées, c'est vraiment élevé. Si vous avez à Kinshasa, à Lubumbashi, un enfant pour étudier, c'est très coûté ici chez nous. Vraiment déplorable. Encore, nous n'avons pas assez de matériel didactique pour la préparation des leçons. Nous n'avons pas de bibliothèque dans ces pays. Les trois au niveau des connaissances mères, des humanités, des enfants, en ce qui concerne l'expression de la langue française, c'est vraiment déplorable. Il faut voir comment ces enfants s'expriment en français. C'est que rien n'est fait jusque-là. L'orthographe même pour écrire. Trop de fautes, tout cela. Nous attribuons cela à la faute au ministère de l'enseignement. Et pour terminer, je rappelle une information à notre ministre, et je salue en passant. Ici, chez nous, en Bougimane, nous avons une école primaire officielle d'application. Cette école a formé des grandes personnes aujourd'hui qui sont à l'étranger, partout. Cette école, on a délocalisé ces enfants, cette école primaire, par l'université de Mbujima, il y a maintenant 10 ans, et un protocole d'accord a été signé pour construire d'autres bâtiments à ces enfants. Aujourd'hui où je vous parle, ces enfants étudient à même les sols, sous les arbres. Et l'école primaire officielle d'application, abandonnée vraiment. Que le ministre essaie de vérifier ces problèmes. L'école primaire officielle d'application, ces bâtiments propres depuis 1960, sont confisqués par l'université de Mbujima. Et on a promis qu'ils vont construire. Non, on n'a pas fait cela. Nous demandons qu'ils puissent voir ces problèmes pour nous satisfaire, nous, les anciens de cette école.
Voilà, merci beaucoup Théodore d'avoir appelé. Franck a parlé tout à l'heure de critères qui ont milité pour au fait on puisse attribuer cette note d'excellence à la RDC par rapport à son système éducatif qui aujourd'hui constitue quand même un modèle pour d'autres pays. Et il a évoqué également les deux listes qui ont été publiées en 2012 et 2013 reprenant les universités modernes. Nulle part, les écoles de la RDC figuraient. Théodore, vous évoquez les cas de l'école primaire d'application à Mbujimaï qui, au fait, jusque-là est confisquée par l'université de Mbujimaï par rapport à la nouvelle construction, les élèves étudient à même des sols et c'est ce qui fait que vous remettez en cause cette performance. Merci beaucoup Théodore, mais je crois que les questions sont directement adressées au ministre. On va revenir à lui. Il est temps de prendre la Guillois qui est à Calémie. La Guillois, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Perrault et bonjour aussi à son excellence le ministre.
Vous avez la parole, la Guillois.
Merci. Je continue toujours à remercier les compatriotes congolais qui sont partis représenter la RDC à cette belle conférence de l'UNESCO. Tout d'abord, je vais rappeler à son excellence, monsieur le ministre, il faudrait qu'il se pose plusieurs questions. Qu'est-ce qui n'arrive pas que les universités de l'AID des Congo ou les diplômes universitaires de notre pays ne sont pas assez respectés à l'étranger? Et une fois de plus, quand nous voyons très bien la qualité de l'enseignement dans notre pays Congo, vous allez voir aujourd'hui, dans notre milieu que nous sommes ici, il n'y a pas même les matériels didactiques. Et vous allez voir l'enseignant qui utilise les anciens cahiers appelés ici communément les Kougou. Et les qualités aussi des bâtiments ne sont pas assez respectables. Lui, en tant que le ministre de tutelle, il peut nous dire, selon ces écoles qu'il avait fait ses études, et avec les écoles dont les enfants d'aujourd'hui sont tentés de mener les études, est-ce que ces écoles, lui, qu'il avait mené ses études, sont conformes avec celles d'aujourd'hui? Est-ce que réellement, quand je le vois, il est cravaté, mais les enseignants aujourd'hui sont tentés de plaire? Et c'est pourquoi je pense que il y a beaucoup des situations qui sont au germe.
Voilà, la Guillois, je crois que vous avez suivi, peut-être que vous avez pris en cours de l'émission, lorsque nous avons posé la question sur les sentiments qu'a le ministre actuellement par rapport à cette appréciation et quelles sont concrètement les performances. Et nous l'avons dit, on lui a également posé la question sur les défis. Il a même reconnu que le parcours, il reste encore beaucoup de choses à faire, et notamment la formation des enseignants et aussi les problèmes de salaire des enseignants. Il a dit,
je crois qu'on va... Je vais un peu vous rappeler quelque chose.
Oui, allez-y.
Je pense que le monsieur, le ministre, était invité lorsqu'il y avait les échecs Il avait proposé les mêmes pistes de solutions, mais jusque-là, on ne voit pas aucune piste de solution. Il avait dit il va majorer, il va payer les enseignants. Jusque-là, rien n'avance, rien n'est effectué, rien n'est vu sur...
Voilà, je crois que voilà c'est... Nous sommes dans tout à fait. Merci beaucoup, Laguillois. Je crois que monsieur le ministre va vous réserver une réponse par rapport à ça. Ben, il faudrait aussi noter que tout est lié au budget et le programme du gouvernement par rapport à cette question. Ben, Maître Adrien est à Kananga pour aussi apporter sa contribution par rapport à cette émission. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à monsieur l'invité.
Vous avez la parole, Maître Adrien.
Merci beaucoup, JR, pour la parole. Je pense que, honnêtement et sincèrement, il faut reconnaître que, les félicitations de nos amis de l'UNESCO sont fondées parce que depuis un certain temps, nous avions senti un effort fourni par le gouvernement congolais en ce qui concerne le secteur éducationnel. Vous pouvez vous-même vous rendre compte, lorsque vous prenez les budgets alloués il y a de cela plus de 10 ans, en rentrant vers 2000, avec le budget actuel, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment
une amélioration
nette, mais néanmoins, là où je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur, c'est au niveau de la qualité. Donc là, ça peut entrer dans le compte des efforts à fournir, parce que j'ai toujours dit, dans ce secteur, il y a des efforts en amont et en aval qu'il faille vraiment fournir, parce que lorsqu'il faut reprocher à un ministre de la tutelle donc le salaire des enseignants, bon, moi je pense que c'est lui demander beaucoup de choses, parce que c'est un programme gouvernemental. Hein, de ce côté-là, je pense que le gouvernement fait qu'il n'y a pas seulement ce secteur-là qui est prioritaire, il y a beaucoup de priorités au même moment, il faut vraiment y aller petit à petit, donc améliorer petit à petit. Je pense que pourquoi pas dans 5 ou 10 ans, on aura aussi à franchir un pas par rapport au salaire, par rapport aux conditions socio-économiques de l'enseignant. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que le ministre de la tutelle pouvait quand même mettre sur pied une commission de suivi. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de décisions prises par le ministre de l'Enseignement, mais à notre humble avis, nous rendons compte que ces mesures-là ne sont pas vraiment suivies. Je donne le cas de la gratuité, par exemple, et puis vous verrez aussi que à un certain moment, le ministre avait interdit pour qu'on ne puisse pas taxer aux finalistes, lorsque vous voulez récupérer votre diplôme, il faut le prendre gratuitement, mais toutes ces mesures-là ne sont pas suivies. C'est là que je suis en train de proposer, si on ne pouvait pas mettre en place une commission de suivi de toutes les décisions prises par le ministre pour voir comment est-ce qu'on peut les appliquer. Donc, bref, je pense à mon humble avis qu'il y a vraiment une amélioration sensible. Il ne faut pas être aveugle pour ne pas comprendre que nous sommes vraiment dans les bons chiens.
Voilà, merci beaucoup Maître Adrien d'avoir appelé des Kananga. On va terminer cette première série avec Samy qui est à Songololo dans le Bas-Congo. Samy, bonjour et bonne arrivée sur les
bonjour,
bonjour,
bonjour.
Voilà, rapidement, comment on peut capitaliser aujourd'hui cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues dans les secteurs de l'éducation en RDC?
En tout cas, en tant que parent, moi je crois que nous avons l'espoir avec ce ministre. Il fait des choses qui nous intéressent. Mais seulement là où ça boite un peu, j'ai posé une question à poser monsieur le ministre. La gratuité de l'école primaire est accompagnée des petits frères de fonction qu'on accompagne sur les lycées. Mais dans notre territoire de Songololo, il y a plus de 20 écoles. Ça fait 6 mois, malgré les salaires payés et les montants suffisants sur les lycées, ils ne reçoivent pas les frais de fonctionnement. Maintenant que nous avançons vers la fin de l'année, comment les pauvres directeurs de ces écoles-là vont établir le rapport de fin de l'année? Parce que nous, parents, en tout cas, nous saluons les mesures prises par les ministres. Voilà ma question. Pourquoi ces écoles-là payent à la BIAC des comptes faits, mais les frais de fonctionnement, ça fait plus de 6 mois, ces écoles ne reçoivent rien, et avec la gratuité, les écoles sont dépourvues, ils n'ont rien comme frais de fonctionnement. Alors, est-ce qu'il est une situation? Parce que 20 écoles, c'est beaucoup. Voilà ma question. À monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Samy. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, vous avez suivi les uns les autres beaucoup d'appréhensions et beaucoup de propositions et également des félicitations de la part des uns et des autres. Alors comment vous réagissez par rapport à ces interventions?
Merci beaucoup, cher ami JR. Je commencerai par le dernier intervenant, M. Samy, par sa question indirecte. La gratuité, je l'ai toujours dit, la gratuité, c'est une mesure qui a été prise pour ramener les enfants à l'école, parce que nous avons constaté que la plupart d'enfants ne vont pas à l'école parce que la modicité des salaires, des revenus de leurs parents ne leur permettent pas d'amener les enfants à l'école. C'est pourquoi le président de la République avait pris cette mesure de la gratuité. Alors, maintenant, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement que le gouvernement avait prise, notamment l'octroi à toutes ces écoles primaires des frais de fonctionnement. Et ces frais de fonctionnement sont effectivement envoyés dans toutes les écoles. Malheureusement, il me parle de 20 écoles à Songololo. C'est une information que je viens d'avoir. Je lui promets que je vais vérifier ça moi-même et des dispositions seront prises pour qu'une solution soit trouvée. J'aimerais aussi dire à notre ami Samy qu'il y a des mesures pour la mise en œuvre de la gratuité. Il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre et qui prévoit quand même des comités d'accompagnement au niveau provincial et au niveau local pour la mise en œuvre de la gratuité. Je crois qu'il est important qu'on accède aussi à ce document qui a été signé par le Premier ministre, un document du gouvernement, pour voir quelles sont les structures qui sont juste à côté de lui pour la mise en œuvre de la gratuité, afin que la gratuité ne soit pas une mesure qui est prise au niveau des Kinshasa et qui n'est pas exécutée au niveau de la province. Elle est prise pour ramener nos enfants à l'école. Les enfants doivent retrouver son milieu naturel qui est l'école. En ce qui concerne notre ami Franck et Théodore, j'insiste encore une fois, je leur dis que les efforts, peut-être ils aimeraient que l'UNESCO dise au Congo ça ne marche pas pour qu'ils soient contents. Non. L'UNESCO a trouvé qu'il y a des efforts. On n'a pas dit qu'on a atteint l'objectif, non. On dit que les efforts qui sont réalisés au niveau de la République démocratique du Congo sont très appréciables dans la mobilisation des ressources au niveau interne. Au niveau interne, aujourd'hui, pour 2014, nous avons un budget de 16%, par exemple. Contre 8, il y a 2 ans. En 2012, nous étions autour de 8%. Là, nous sommes déjà à 16%. Donc, le gouvernement a pris résolument une option qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est le premier poste budgétaire. Et ça, c'est très apprécié par l'extérieur. Au niveau international, nous avons toute une stratégie aujourd'hui. Nous avons une boussole qui nous dit, voilà les problèmes que nous avons au Congo, des problèmes clairs que nous connaissons en ce qui concerne l'accès, la qualité et la gestion du système éducatif congolais. Et où nous voulons aller, quelles sont les mesures que nous allons prendre pour atteindre tel objectif. Et ça, c'est connu à travers le monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Ce qui fait que même maintenant, au niveau de l'extérieur, nos amis nous promettent et nous donnent, nous octroient beaucoup de ressources. Donc, c'est cette mobilisation des ressources qui est beaucoup appréciée aussi, qui a fait qu'on dise aux autres ministres d'autres pays comment on fait au Congo pour que, et en interne et à l'externe, il y ait une forte mobilisation des ressources qui se traduit directement par certains résultats sont l'amélioration des indicateurs. Vous avez cité hier les problèmes d'admission. Nous sommes partis de 80 à 110. Quand on dépasse les 110, vous avez parlé de ça, 1, 2, 110. Mmh. Quand vous arrivez à 110, c'est-à-dire que les systèmes récupèrent même certains enfants qui étaient déjà partis de l'école, qui n'étaient pas récupérables. C'est ce que ça signifie. Et ça, c'est des efforts qui sont quand même qui sont appréciables. Franck a posé le problème de construction d'écoles. Il dit qu'à travers le pays, les écoles sont en mauvais état. Mais un pas, pour arriver à 1000 pas, on commence par un pas. Et si vous avez bien suivi le Premier ministre, il a dit que les 1000 écoles, c'est un programme annuel. Si, par an, on construit 1000 écoles, il faut aller dans le village. Peut-être lui, il est en Autriche, il ne sait pas ce qui se passe dans nos villages. Quand vous arrivez dans nos villages, il faut voir comment les gens, les communautés se mobilisent autour de ces écoles qui sont en train de se construire, ce qui n'a jamais été fait depuis très très longtemps, depuis des lustres. On n'a pas construit ce genre d'école. Mais aujourd'hui, avec les normes que nous avons édictées, que le ministère a édictées, les ressources sont là et les écoles sont en train d'être construites en un laps de temps. Nous avons commencé le programme, ça fait peut-être 8 mois, mais en ces 8 mois, nous avons déjà autour de 200 écoles construites à travers la République. Nous pensons atteindre 500 d'ici là. Vous voyez que c'est des efforts que à l'extérieur sont vraiment appréciés. Notre ami Théodore a parlé de frais scolaires et autres, oui, qui sont élevés, mais ces frais scolaires sont demandés aux parents. Et les parents, ils savent quand même qu'il y a un arrêté du gouverneur qui fixe les frais scolaires. Mais demander, exécuter, donc vous êtes aussi, parce qu'on demande aussi pour le suivi des mesures que nous prenons. Mais la première institution pour le suivi des instructions que nous prenons, c'est les parents. D'abord, c'est les parents qui lui-même doivent se poser des questions et aller à l'école pour voir est-ce que ce qui est demandé, ce que l'enfant me demande de payer, est-ce que c'est vrai. Et si c'est vrai, si c'est le chef d'établissement qui demande ça, il y a d'autres structures au-dessus de l'école qui peuvent prendre des mesures pour que les choses finalement commencent à aller, parce que c'est un problème de nous tous. C'est un problème de nous tous. L'école d'application de Mujimaïs, c'est un dossier que je connais, je prends bonne note, nous allons voir avec les autorités provinciales, quelles solutions nous pouvons trouver. Mais je sais que, d'une manière historique, je sais comment on a créé certaines universités chez nous. C'est les communautés qui se réunissaient, qui disaient, bon, nous n'avons, nos enfants parcourent de longues distances pour aller avec Hossein Mbujimaï, la plupart des candidats allaient à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, où ils venaient ici à Kinshasa, où ils allaient à Kisangani. C'est pourquoi la plupart des communautés se réunissaient pour dire, bon, voilà, nous voulons aussi une université chez nous. Mais on demandait ça sans infrastructure. Et on cherchait souvent, bon, quelle est l'école qui est disponible, qui est à côté où on peut installer l'université ou l'institution d'enseignement supérieur. Et c'est ainsi que nous, au niveau du ministère de l'EPSP, on s'est vu spolier comme ça à travers la République. Et nous sommes en train de faire un effort pour pousser ces universités à construire elles-mêmes leur bâtiment afin qu'elles laissent les écoles
fonctionner normalement.
Pour l'EPSP. Bon, pour notre ami de la Guilloire de Calémie.
Oui.
Si j'ai bien
oui, la Guilloire
de Calémie. Bon, il dit sans matériel didactique, mais le premier matériel didactique, c'est les manuels. Et aujourd'hui, il y a des manuels à travers toute la République que nous distribuons gratuitement. Mais nous constatons parfois qu'il y a certaines écoles, parfois les enseignants n'utilisent pas ces manuels. Ils gardent les manuels dans le bureau du chef d'établissement, alors que les manuels sont là pour toutes les écoles, privées comme publiques. Mais qu'il veille à ce que ces manuels soient quand même utilisés. C'est moi, à partir du mois d'avril, parce qu'il a posé aussi des problèmes de salaire, à partir du mois d'avril ici, le gouvernement a pu payer, avec la collaboration de ses partenaires, 12 500 enseignants supplémentaires qui sont payés à partir du mois d'avril, et au mois de juillet, on va encore accroître le nombre d'enseignants payés. Vous voyez, tous ces efforts, c'est pour que nous arrivions à alléger quand même la tâche de nos parents. Nous remercions vraiment Maître Adrien de Kananga pour ses appréciations. En tout cas, nous sommes de cœur avec lui, mais encore une fois, nous insistons pour lui dire que la meilleure structure pour faire le suivi des différentes mesures que nous prenons, c'est les comités des parents que nous avons institués au niveau de chaque école. Et ces comités des parents peuvent, si ça ne marche pas, revenir vers les structures supérieure, et je crois que ça peut nous aider quand même à avancer.
Oui,
merci beaucoup.
Oui, monsieur le ministre, il y a également un autre problème, toujours dans les systèmes éducatifs à l'RDC, la lenteur autour de la livraison des titres scolaires ou encore des titres universitaires. Aujourd'hui, ça pose problème, raison pour laquelle même Franck est revenu sur le cas d'homologation de ces diplômes, parce que dès que nous franchissons les frontières, on va au-delà, c'est toujours un problème. Et là aussi, il faut vraiment que le gouvernement soit un peu regardant.
Oui. Non, vous avez raison. Ce sont des arriérés qui sont accumulés. On est en train de tout faire, qu'on a accumulé pendant beaucoup de temps, qu'on est en train d'apurer. En tout cas, qu'il s'agisse de l'enseignement primaire ou enseignement supérieur, beaucoup de diplômes sont en train d'être remis aux propriétaires et ça marche. Et ces diplômes sont remis gratuitement. Si vous allez, surtout les diplômes de l'école primaire, je ne veux pas parler des diplômes au niveau de l'enseignement supérieur qui sont payés. Mais au niveau de l'enseignement primaire, ce diplôme est gratuit, j'insiste. Quand vous allez dans une école, on vous demande l'argent pour retirer le diplôme. Si vous n'avez pas de dette, parce qu'il y a certains chefs d'établissement qui considèrent que c'est un moment pour que l'élève arrive à purer les dettes sur les frais scolaires. Si ce n'est pas ça, et vous êtes en ordre avec les frais scolaires, on vous demande l'argent. Il faut décrier ça et refuser. Refuser, vous nous aiderez aussi, vous aiderez l'État a fait respecter les normes et les décisions que nous prenons.
Nous allons repasser à nouveau au standard pour accorder la parole à l'ingénieur Mangoyo et puis à l'ingénieur Mangoyo et puis Mystère qui est à Kikwit 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles.
Voilà, vous avez suivi comme nous l'actualité, l'UNESCO a organisé la réunion mondiale sur l'éducation pour tous. Dans son allocution, la directrice générale de l'Agence onusienne pour l'éducation, Irina Bokova, a salué les performances et les réalisations de la RDC dans les domaines de l'éducation qui tendent à bâtir un système éducatif plus efficace. Alors comment alors capitaliser cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues?
Merci Monsieur Gilles pour l'occasion que vous me donnez encore de participer à cette émission, et surtout en ce qui concerne notre système éducatif. De prime abord, je tiens à saluer notre invité, le ministre Macaire, pour sa disponibilité, parce que je constate que à chaque fois qu'il y a une émission comme ça au niveau des radios Capi, il n'hésite pas à venir. Vraiment, c'est un comportement encouragé et je le félicite pour ça. Monsieur Gilles, vous savez, les appréciations, les rapports des institutions internationales ou même des ONG, moi, souvent, il y a à boire et à manger dans tout ça. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les réalités de chaque pays. Parce que généralement, ces rapports se font soit dans les bureaux, ils sont loin, et ainsi de suite. Mais ce que nous vivons sur place, c'est ce qui est beaucoup plus important à prendre en compte.
Donc si je comprends bien, ingénieur Mangoyo, votre préoccupation va dans le même sens que celle de Franck de Vienne qui parlait tout à l'heure des critères qui ont milité pour ces genres de classements. Donc c'est cela.
Tout à fait, Gilles, tout à fait. Parce que vous savez, cette communauté internationale et toutes ces institutions-là, ce qu'ils font là-bas, bon, il y a à boire et à manger. Moi, je n'aime pas entrer dans ce qui se fait à ce niveau-là. Moi, j'aime vivre les réalités.
Alors, quelles sont les réalités que vous avez observées sur les terrains ici, en RDC, vous personnellement, parce que vous vivez à Kinshasa, vers l'ouest de la République, si je m'abuse. Donc, je sais que vous êtes à Balouquin.
Oui, j'ai. C'est vrai.
Alors, si vous pouvez nous donner les cas, si vous pouvez nous donner quelques cas d'école à Balouquin, comme ça, on sera très concret.
Non, mais écoutez, j'ai. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis par le gouvernement actuel, mais je crois que le chemin est encore long à parcourir. Vous parlez de Malueka, vous parlez des écoles ici à Kinshasa, mais vous savez que...
Oui, parce que vous êtes à Malueka, à Kinshasa, vous avez une réalité que nous ne maîtrisons pas, donc ça peut-être nous aider et aider aussi notre invité.
Oui, mais justement, les problèmes se trouvent au niveau de la qualité des enseignements. La qualité, comme l'a dit Franck. Parce que, vous savez, on peut beau construire des écoles. On peut construire des bâtiments, des très beaux bâtiments. Mais à quoi servira ces bâtiments lorsque la qualité des enfants conformes dans ces bâtiments pose problème?
Alors je crois qu'on va évoluer quand même, ingénieur Mangoyo, parce que nous avons suivi tout à l'heure notre invité qui a évoqué la trilogie qui constitue d'ailleurs les efforts qui sont menés par le gouvernement congolais. Il y a d'abord l'accès à la scolarisation, et puis la qualité de l'enseignement, et puis la gestion. Les problèmes aujourd'hui, c'est les problèmes de la gouvernance au niveau scolaire, tout ça, donc la trilogie là. Je crois que c'est tout un processus, et il y a des efforts qui sont menés. Je ne sais pas comment vous appréciez cela.
Oui, mais vous savez, le ministre a parlé, par exemple, des comités des parents qui doivent payer. Mais vous savez que, depuis un certain temps, ces comités des parents ne jouent plus leur rôle. Vous savez, donc, les problèmes au niveau des écoles, on a l'impression que les écoles sont devenues, disons, c'est comme un business. Hein? C'est pourquoi je voudrais un peu poser la question à notre...
Oui, rapidement, comme ça, on va prendre aussi mystère. Oui.
Attends que je pose la question.
Oui, rapidement, oui.
Oui. Alors, je voudrais un peu demander à son excellence, monsieur le ministre, la gratuité de l'enseignement qu'on a institué là-bas pour la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Quels sont les problèmes qui se posent? Parce que ça fait plusieurs années, quand même, depuis qu'on a dit qu'on viendra. Mais à Kinshasa, à Lubumbashi, au Katanga, tout ça, ce n'est pas encore fait. Est-ce que les autres invités peuvent nous dire quels sont les contraintes?
Voilà, comme il s'agit là d'une question directe, alors...
L'enseignement au niveau de l'école primaire n'est pas encore, disons...
Effective. Merci beaucoup.
Des deux, monsieur Gilles.
Rapidement alors.
Vous savez que dans certaines écoles, il y a le système d'enseignement qui n'est plus d'application. Vous savez, il y a, par exemple, le système de dictée. Notre invité peut nous dire quel est son sentiment. Parce que moi, je constate ici, lorsque on essaye de faire le système traditionnel, par exemple, il y a beaucoup plus de dégâts qu'avec le système actuel. Est-ce que le ministre peut nous dire, selon lui, quelle est son impression
par rapport à ça?
Même dans une école qui enseigne très bien, mais lorsqu'on applique le système
traditionnel,
il y a des problèmes, et les enfants n'arrivent pas bien à s'appliquer.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Monsieur le ministre, parce qu'il s'agit là d'une préoccupation directe, quelle est la réponse que vous réservez à notre auditeur?
Oui, j'aimerais quand même dire à notre ami, à l'ingénieur Mangoyo, qu'il aurait aimé qu'on dise que Madame Irina Nabokova, la directrice générale de l'UNESCO, dise qu'au Congo ça ne marche pas. Alors là, il dirait que non, le rapport est bon. Quand on dit que non, ça marche, le rapport n'est pas bon. Non. Je crois qu'il faut quand même être correct. Ce n'est pas, vous savez, à ce niveau de responsabilité. Au niveau de responsabilité de la directrice, parce qu'elle peut, ça peut l'amener même à la démission. Si elle dit des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas vérifiables, ça peut l'amener à la démission. Donc il faut vraiment faire attention quand une directrice générale monte au créneau, dit à la communauté mondiale que voilà, au niveau de la mobilisation des ressources, au niveau de la gestion du système, il y a des indicateurs qui s'améliorent au Congo. C'est vrai que, j'insiste, on n'a pas atteint les objectifs. On n'a pas encore atteint les objectifs parce que le fossé est encore important. Mais elle dit, il y a quelque chose qui s'est fait, on évolue, vous êtes sur la bonne voie, que les pays qui sont dans la même position que le Congo suivent l'exemple du Congo. C'est ça que c'est le grand message qui a été transmis par les sites de l'UNESCO. Ça, c'est important et nous devons nous en réjouir, nous, en tant que Congo, pour que nous voyons comment nous pouvons faire pour capitaliser ça. Et je crois que, cher ami JR, votre émission est importante. Vous dites, vous revenez toujours sur ça. Comment capitaliser
cette appréciation de
la directrice générale. Je crois que c'est important et nous devons concourir à ça. Nous devons réfléchir pour voir comment capitaliser ce que la directrice générale a dit. Sauf que dire non, il y a à boire et à manger. Donc la directrice générale là, a été retrouvée dans un petit bureau. Elle écrit un rapport pour dire que non, au Congo, ça marche. Ça peut l'amener à la démission. Il a dit des choses qui ne sont pas correctes. Donc, je crois qu'il faut quand même que nous respections les appréciations qui sont faites par des gens de notre habilité de ces niveaux.
Voilà,
en ce qui concerne la qualité, j'aimerais quand même lui parler de la qualité. C'est vrai que là, il a raison. On peut construire les écoles, mais il faut que la qualité s'améliore. Mais nous savons aussi que quand un enfant étudie dans des conditions plus ou moins correctes, il y a vraiment beaucoup de préjugés pour que la qualité s'améliore. Nous avons constaté, par exemple, que dans toutes les écoles que nous sommes en train de construire, nous avons fait une petite évaluation rapide. Nous avons trouvé, par exemple, qu'il y a un problème de l'équité que nous avons résolu. Il y a beaucoup plus de filles qui vont dans nos écoles que de garçons. L'indice de parité est arrivé à 1.006 ou 0.09, quelque chose comme ça. Alors que dans l'ensemble, nous sommes encore autour de 0,9. Donc nous avons dans nos écoles primaires beaucoup plus de garçons que de filles. Mais dans les écoles qui sont construites maintenant, on a constaté qu'on a amélioré l'équité. La jeune fille est beaucoup plus présente dans ces écoles que les jeunes garçons. Ce qui est quelque chose de très important que nous poursuivons, que le gouvernement poursuit, que toute la communauté construit. Nous avons au Congo beaucoup plus de filles que de garçons. Comment on peut avoir dans nos écoles beaucoup plus de garçons que de filles? Alors, si on trouve que dans les écoles qui sont construites, nous avons beaucoup plus de filles que de garçons, c'est une bonne chose. Donc, nous avons atteint un objectif. Quand il dit le comité des parents ne joue plus leur rôle, il veut que qui va demander au comité des parents? Vous avez envoyé votre enfant à l'école et vous êtes irresponsable, vous ne pouvez pas vous réunir avec les autres pour dire est-ce que la qualité de l'enseignement est bonne? Est-ce que ce qui se passe au niveau de nos enfants, est-ce que nos enfants sont bien encadrés? Est-ce que les enfants étudient dans des conditions idéales? Est-ce que les cours se donnent comme il faut? Est-ce qu'il n'y a pas un absentéisme au niveau des enseignants? Ah, mais vous, en tant que parents, aidez-nous à suivre ce qui se passe au niveau des écoles. Ça va vraiment nous aider. Nous avons pris derrière la décision le 2 juillet, si tout va bien, parce que nous avons instruit tous nos collaborateurs.
nous allons donner la liste, nous allons proclamer aussi les écoles. Toutes les écoles de la République démocratique du Congo seront proclamées. Comme ça, vous saurez si votre enfant est dans l'école la première ou la dernière. Et si elle est la dernière, c'est quoi, entre autres critères, quelle est l'implication des parents dans le fonctionnement de l'école?
Ça sera une première.
Payer les frais. Ce n'est pas toujours payer les frais, mais est-ce que les assemblées générales se tiennent? Est-ce que vous discutez des problèmes de vos enfants? Il a parlé de la gratuité à Kinshasa et à Lubumbashi. Nous venons de faire une étude. Je crois que l'étude sera rendue publique au mois de juin. Et à ce moment-là, des mesures idoines seront prises pour voir comment on peut lancer la gratuité à Kinshasa et à Lubumbashi. Parce que Kinshasa et Lubumbashi présentent certaines particularités. Ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques temps, nous avions trois zones salariales. Nous avions la zone salariale de Kinshasa, nous avions la zone salariale de Lubumbashi, et le reste du pays avait la troisième zone salariale. C'est parce que quand un enseignant donne cours à la Gombe, et qu'il habite Maluku ou il habite Massina, c'est pas être par exemple à Kikwit où il peut marcher, où il peut prendre une moto ou un vélo, arriver facilement à l'école. Donc il y a cette particularité dont il faut tenir compte quand nous prenons ce genre de mesures.
Voilà, nous allons accorder la parole également à Mystère qui est à Kikwit et Justin qui est à Dungu. Mystère, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour les enseignants de l'école AD.
Vous avez suivi vos prédécesseurs, à votre tour vous avez la parole, quel est votre point de vue?
Vraiment, les avancées qu'on a parlé de construire des bâtiments, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais moi de préférence, j'aurais souhaité que d'abord c'est l'enseignant qui devrait être au centre, qui donne la formation, qui soit bien payé, il est à l'aise, il prépare les leçons sans handicap, il ne résout pas au manger, ni au transport. Et il doit former un enfant qui étudie dans un bâtiment en chambre avec un diplôme bien là et avec une intelligence 100%. Et il pouvait sortir du pays pour l'étranger pour aller défendre le diplôme de la RDC. Enfant qui étudie dans de bons bâtiments avec un enseignant mal payé et qui doit recevoir une mauvaise éducation ou soit des... Il doit aller très mal représenter le pays à l'étranger.
Merci beaucoup.
D'abord à arranger les conditions salariales de l'enseignant afin d'aborder le problème de construction des bâtiments.
C'est parmi les défis. C'est parmi les défis à relever dans ce processus de bâtir un système éducatif plus efficace. Notre invité l'a reconnu. Je crois qu'il pourra encore revenir sur ça pour en fait aider la lanterne de ceux qui viennent à peine de nous rejoindre dans cette émission. Parole aux auditeurs qui vous accordent la parole. Justin, vous êtes à Dungu. Bonjour Justin.
Bonjour Radio Capi, merci pour m'avoir accordé la parole. Je suis Justin Damba, je tiens la partie de Dungu, province orientale.
Voilà, vous avez
je suis d'accord avec les amis, oui, oui, qui ont intervenu avant moi,
oui,
sur les avancées, tant intérieures qu'extérieures. Mais j'ai un témoignage d'hier à te relever. Mm-hmm. Je suis le fils d'un enseignant depuis ma naissance. Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je peux vous le dire, je n'ai jamais perdu quelque chose sur le listing de mon père pour, je ne sais pas, salaire, parce que dans le salaire, il y a des bénéfices qu'il a fait, non. Alors, dans ce cas, JL, mon père aujourd'hui a 60 ans et moi j'ai 31 ans. Jusqu'à quand je vais percevoir quelque chose sur le salaire de mon père? Et puis, j'ai petit témoin ce matin, JL, je suis arrivé chez mon papa, il est venu prendre la moto, prendre une maîtresse, qui souffre de ce deuxième. Maintenant, elle a fait voyage d'ici à Aru pour être soignée et ça lui a coûté $80 aller-retour pour le transport seulement. Et puis pour les soins, je ne sais pas ce que ça lui a coûté.
Voilà, je crois que c'est pour votre gouverne, Justin. Là, vous évoquez au fait l'accès aux soins de santé pour le cas des enseignants. Je crois qu'à un certain moment, il y avait des efforts. Je ne sais pas si c'est à quel niveau maintenant, au niveau des provinces, avec des mutuelles de santé qui ont été créées, ça et là, pour permettre à ce que les enseignants aient quand même accès aux soins de santé appropriés. Donc, je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Il y a eu, des projets dans ce sens-là. Déjà, à Kinshasa, ça marche. Si ma mémoire est très bonne, à Lubumbashi ou encore dans d'autres villes, mais je ne sais pas le cas à Dungu ou encore ailleurs, donc je crois que c'est d'une manière générale qu'on pourrait voir cet aspect de mutuelle de santé. Justin, merci beaucoup d'avoir appelé. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, notre problème également, c'est l'accès aux soins de santé appropriés pour les enseignants. Vous avez suivi les témoignages de Justin.
Oui, en tout cas, en ce qui concerne la mutuelle de santé, nous pouvons rassurer notre ami Justin qui appelle de Dungu, que bon, la mutuelle a commencé. Quand vous montez un projet si complexe, il faut toujours y aller d'une manière méthodique. Donc, on a commencé à Kinshasa. Maintenant, on est allé à Lubumbashi. C'est tellement que d'ici là, on va aller dans d'autres parties de la République. Ça pourra prendre un peu de temps, mais bon, voilà, le programme est lancé. Et comme nous avons de bons résultats, c'est tellement que d'ici là, nous arriverons aussi à la mutuelle, arrivera à Dungu. Donc là, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas compris sa question quand il dit prendre le salaire de mon père. Je n'ai pas très bien compris.
Donc c'est comme si sur le listing, je ne sais pas, dans son bulletin de paye, hein, si j'ai compris ou j'ai bien interprété son intervention, dans le bulletin de paye, au fait, l'allocation familiale, je ne sais pas si... voilà, c'est dans le cas de l'allocation familiale, il va nulle part, une rubrique où on paye quand même quelque chose pour les enfants.
C'est ça. Mais lui, il a 31 ans. Donc même si on payait, ça serait jusqu'à 18 ans. Donc... il est déjà majeur, il doit se prendre en charge, il doit travailler pour qu'il arrive quand même à souvenir aussi à ses propres besoins. Il n'a pas à veiller sur le salaire de son père. Il a 31 ans, comme il a dit. Donc, c'est quand même important. Je vois aussi notre ami Mister de Djikwit. Bon, c'est vrai, il ne faut pas tout le temps, nous disons, nous prenons la question de l'enseignant dans sa globalité. Il ne faut pas que, chaque fois qu'on parle des problèmes de l'éducation, que nos amis enseignants résument ça au salaire de l'enseignant. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits. Moi, j'ai été à Manzangungu, j'ai rencontré un enseignant qui m'a dit, il y a quelques temps, mon salaire, c'était une baguette de savon. C'est vrai, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, il y a quand même des efforts qui sont fournis et on doit poursuivre. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau, on continue. Donc, mais il ne faut pas tout le temps résumer ça. Pour que l'enseignant soit bien et que l'éducation, l'enseignement qu'il donne aux enseignants soit de bonne qualité, c'est vrai, il y a les problèmes de son salaire, il n'y a pas que ça. Vous avez parlé des problèmes de soins de santé que le gouvernement est en train de résoudre, mais il y a aussi sa propre formation. Vous pouvez avoir, on peut vous donner des millions, vous êtes enseignant, vous avez des millions, mais si vous n'êtes pas formé pour donner cours, vous allez aussi envoyer ces enfants au désert. Vous allez les envoyer dans un puits. C'est pourquoi nous disons, non, on prend le problème de salaire de l'enseignant et nous sommes en train de nous en occuper. Chaque année, en tout cas, il y a une amélioration qui s'est faite. Et nous prenons aussi sa formation, sa condition sociale avec le problème des mutuelles. Mais nous veillons à ce que cet enseignant soit formé. À Tuit, nous avons un centre de formation là-bas. Nous avons signé un accord avec une dame, je crois que c'est une Suissesse, qui est là, qui a un centre de formation. Nous exigeons que tous les enseignants passent par là pour se former, afin qu'ils apprennent ne fût-ce que la bonne pratique de classe. Donc ce sont des choses importantes. Nous devons prendre les problèmes de l'enseignant dans sa globalité. Et il est bien formé, il a un bon salaire, il faut qu'il trouve quand même aussi une belle salle de classe. Parce que si on résout un... Même notre ami ministère, je crois qu'il peut être de mon avis. Si on lui donne de bons salaires, je crois que là, il nous appellerait pour dire, bon, c'est vrai, nous avons de bons salaires, mais nous donnons cours sous le manguier. Vous voyez, donc nous devons résoudre le problème de ne pas donner cours sous le manguier en construisant les écoles. Nous devons faire un effort pour que l'enseignant ait le salaire qu'il lui faut. Et on résolve aussi ce problème de conditions sociales et qu'il soit à l'aise, qu'il ait beaucoup plus de dignité. On ne peut pas améliorer le système éducatif congolais s'il n'y a pas un accent particulier sur
la... Oui, monsieur le ministre, parce que vous avez parlé de la formation, aujourd'hui tout le monde est d'avis que pour capitaliser cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues dans les secteurs de l'éducation, tout passe notamment par la formation de l'enseignant. Alors qu'en est-il de la construction des centres de ressources pédagogiques pour la formation des enseignants?
En tout cas, le dossier évolue bien, JF. Nous avons un centre donc ici à Kinshasa, que nous avons construit avec la contribution de nos partenaires, notamment pour ne pas citer USAID. Nous avons des centres à Likasi, à Kolwezi. Nous avons un centre à Bandundu. Nous avons un centre en Mbandaka, à Kisangani, à Bukavu, à Goma. Nous sommes en train de faire des efforts pour que Kananga, Mbujimayi et Kindu aient aussi leur centre. Le financement est déjà obtenu. Donc d'ici là, on va construire aussi des centres comme ça. C'est pour permettre à ce que l'enseignant soit tout le temps recyclé. Nos cerveaux, c'est comme des jardins qu'il faut arroser tout le temps. Même nous devons lire, nous devons apprendre, nous devons écouter pour nous améliorer. C'est pourquoi nous avons pris l'option vraiment de multiplier à travers le pays les centres de ressources. Mais ça ne suffit pas, il n'y a pas que des centres de ressources. Il ne faut pas que les enseignants quittent des coins très
reculés
pour arriver dans le centre des ressources. Nous faisons un effort pour leur amener, pour que nous arrivions à leur donner aussi les formations dans les salles de classe. Hein, pour améliorer les pratiques de classe et autres, nous amenons aussi un certain nombre d'équipements. Bientôt, il y a certains enseignants qui vont commencer à avoir des iPads pour la formation continue pour leur formation continue. Donc voilà des efforts qui sont en train d'être fournis pour que l'enseignant donne les enseignements et que l'élève qui suit son enseignant capte quelque chose, appelle quelque chose et maîtrise quelque chose de son propre enseignement.
Alors, je crois qu'il y a un dossier important que nous aimerions aussi nous faire une idée très claire par rapport d'ailleurs à toutes ces avancées. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'enseignants qui ont été mécanisés. Je crois que c'est la question que nous allons vous poser, mais tout en demandant à Jonathan qui est à Bandundouville et à Albert qui est à Kinshasa de garder la ligne. On va revenir juste après les flashs d'information par rapport à cette question. Et Monsieur le ministre, nous vous gardons également en ligne pour juste répondre à notre préoccupation par rapport à la mécanisation, parce que là également on nous a signalé qu'il y a quand même des avancées qui ont été réalisées. Nous allons nous retrouver juste après le flash. Radio Okapi. Le flash d'information, Pascal Massirika.
Okapi. Madame, messieurs, bonjour. Le président de la RDC est à Paris depuis hier après-midi. Joseph Kabila Kabange sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président français François Hollande. Au menu, la crise centrafricaine, la coopération économique ainsi que la situation politique qui prévaut en ce moment au Congo-Kinshasa. Selon un diplomate, la France pourrait aussi inviter Joseph Kabila Kabange à respecter la constitution du pays et à ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2016. Au sud Kivu, manque de documents migratoires à la DGM Uvira. La traversée de la frontière congolaise vers le Burundi à Kavimvira n'est plus possible depuis 3 jours. Plusieurs centaines de voyageurs congolais ont dû forcer leur traversée lundi dernier. La DGM, qui est en rupture de stock de laissez-passer individuels et celui de la CEPGL, attend tout de Kinshasa pour décanter la situation. On reste dans la région où le président de la société civile du territoire de Fizi se dit préoccupé par la dégradation de la situation humanitaire dans les zones de combat au bord du lac Tanganyika. La source renseigne à Radio Okapi que des biens ont été pillés et des maisons incendiées par des hommes armés. Ces affrontements ont provoqué un mouvement massif des populations vers la brousse. Au Kasaï occidental, le coordonnateur du réseau indépendant anticorruption dénonce le détournement des médicaments essentiels et autres matériels par les responsables de la zone des santé de Kalonda Ouest à Chikapa. En mission dans cette ville, Emmanuel Kabukapu justifie plutôt ses accusations par rapport au dernier détournement des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il ajoute que ces médicaments essentiels qui ont été remis par les bailleurs de fonds internationaux ne peuvent être vendus ni détournés. Hausse du prix d'essence ce matin à Lodja. En une nuit, le prix du litre d'essence est passé de 2000 à 3000 francs congolais auprès des revendeurs, dit Kadhafi. Ces derniers accusent les dépositaires d'avoir élevé tout simplement le prix du fût de 400 à 500 dollars américains. Ceci parle quant à eux de carence de carburant dans les dépôts de la cité de Lodja. Au Kasaï occidental, pendant ces temps, la division de la santé publique a organisé mardi après-midi une journée d'information sur la campagne de vaccination des enfants contre la rougeole et la poliomyélite. La coordinatrice provinciale du Pronanout indique à Radio Okapi que cette première phase va du 26 au 31 mai dans les 44 zones de santé. Il est 11h02 à Kinshasa et c'est la fin de ce Flash Info. Merci d'avoir écouté.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Monsieur le ministre, avant le flash, on s'est préoccupé par rapport à la mécanisation des nouvelles unités. Où en est-on et qu'en est-il exactement? Voilà, dommage, nous n'avons plus les ministres en ligne. On va prendre Jonathan qui est à Bandundouville. Jonathan, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
Oui, monsieur JR, je voulais intervenir sur un aspect pour capitaliser les félicitations que nous avons obtenues au niveau de l'UNESCO. Et selon moi, je pense que tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est bien. Mais nous avons un problème sur la qualité de l'enseignement en ce qui concerne la corruption qui gangrène le milieu éducatif. L'enseignant est complice, l'élève est complice, même celui qui est appelé à contrôler est complice. Est-ce que le ministre de l'Éducation ne pouvait-il pas mettre en place une structure informelle pour dénoncer toutes ces pratiques de corruption? C'est ça, pour amener un peu notre éducation à une qualité escomptée.
Voilà, vous évoquez là le problème de la corruption. Vous souhaiterez que, au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire ou encore le ministère de l'éducation, qu'on puisse mettre des dispositifs pouvant, au fait, lutter contre cette corruption dans les milieux éducatifs. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir appelé des bandes de nos villes. Nous prenons Albert qui est à Kinshasa. Albert, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Gérard Lungembo.
Voilà, Albert.
J'ai trois petites préoccupations à m'adresser à son Excellence. Monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. La première, vous savez que les élèves de l'école primaire, lorsqu'ils terminent le niveau primaire pour retirer le certificat, le chef d'établissement leur demande un peu d'argent. Ceux qui terminent la sixième des humanités, c'est la même chose. Le deux, nous voyons dans l'enseignement catholique, pour que quelqu'un, un pasteur catholique, soit enseignant ou préfet des études, il faut qu'il fasse l'UPEN. Or, dans les protestants, il suffit de faire la théologie à l'UPC ou à n'importe quelle université. Ces derniers, on attribue la fonction de préfet des études pour laquelle il ne verra pas l'élève, mais plutôt ses avantages personnels. Troisième point, l'argent que les parents payent pour les motivations des enseignants, cet argent n'arrive pas au destinataire. Ce sont des coordinateurs, ce sont des profs qui en profitent. Maintenant, les inspecteurs qui sont censés de bien suivre les écoles, le secrétariat général qui est censé de bien suivre les écoles, eux-mêmes pleurnichent, soi-disant qu'ils ne reçoivent pas les primes prévues par l'État. Est-ce que Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre, pourra nous éclairer sur tout ce qui pleure autour de lui? Quelle serait sa réponse? Je vous remercie, Gérard Lungembo.
Merci beaucoup, Albert. Il y a beaucoup de défis à relever, ce qui permettrait peut-être un jour qu'on puisse capitaliser cette appréciation de l'extérieur. On a parlé de cas de mécanisation de nouvelles unités. Il y a également ce que vous venez d'évoquer. Tout à l'heure, un auditeur qui est passé avant a souligné cet aspect de la corruption. C'est Jonathan qui a parlé de la corruption qui gangrène en fait le système éducatif. Alors comment résoudre ces problèmes? Il demande à que le ministère puisse instaurer ou mettre un dispositif pour pouvoir lutter contre cette corruption. Voilà, monsieur le ministre, vous êtes à nouveau en ligne. On parlait avant le flash d'information de cette problématique de la mécanisation. C'est vrai que la bancarisation a commencé avec les enseignants, parce que par rapport à l'histoire, on sait que les succès qu'a la bancarisation aujourd'hui a démarré avec les enseignants, et à cette époque, il y a même ceux qui n'étaient pas encore mécanisés qui se plaignaient. Alors comment vous avez pu résoudre ces problèmes dans ce processus?
Oui, comme vous l'avez dit hier, excusez-moi pour tout à l'heure, nous avions un problème de communication. Je n'ai pas suivi toutes les questions qui vous ont été posées. Mais en ce qui concerne la mécanisation, j'aimerais vous dire que, en tout cas, beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis pour payer le plus d'enseignants possible. Je voulais juste vous dire que de 2007 à 2014, on a pu faire ce qu'on n'a pas fait pendant presque 20 ans. Donc maintenant nous sommes autour de 150 000 enseignants supplémentaires qui sont payés, mais comme le stock d'enseignants qui ne sont pas payés est encore important, on fournit des efforts pour qu'on les paye. Au mois d'avril ici, le avril 2014, le gouvernement a pu payer 12 500 enseignants et au mois de juillet, on va faire encore de même. Donc, nous essayons de tout faire pour récupérer ces retards. Entre-temps, nous mettons l'accent pour pour améliorer vraiment la bancarisation, qui est un bon système, une bonne réforme qui permet aux enseignants d'avoir leur argent, leur salaire à temps et dans la totalité.
Alors, il y a Donna qui est à Kinshasa. Donna, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Merci beaucoup pour la parole. Excellence, moi, je voulais beaucoup plus intervenir sur le niveau universitaire. Au niveau des documents à retirer lorsque les étudiants ont fini leur cursus, nous connaissons beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de lourdeurs dans la procédure en ce qui concerne les retraits des diplômes. Est-ce que vous pouvez nous dire, ou je voulais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir nous aider à enlever quand même ces lourdeurs? Et puis, la deuxième préoccupation, est-ce que comme c'est fait déjà au niveau de l'école primaire, secondaire, il n'y a pas moyen de que l'octroi des diplômes à l'université soit aussi gratuit? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? L'État ne peut pas songer à ça pour qu'à la fin des études, que l'étudiant qui a tout donné pendant les études puisse obtenir son diplôme gratuitement et avec peu de procédures. La troisième et dernière préoccupation, Excellence, vous avez été au gouvernement de Kizenga qui avait instauré la bourse pour les étudiants. Un moment après, on a interrompu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que cette bourse soit donnée aux étudiants? Qu'est-ce qu'il y a militaire, c'est qu'on puisse interrompre? Est-ce qu'il y a procédure à ce que cette bourse-là soit accordée? Parce qu'elle a été quand même importante pour les étudiants. Sachant que vous êtes un ministre qui fait toujours ses preuves et qui fait toujours des bonnes choses, et surtout que vous avez ce secteur-là, si vous pouvez aussi militer à ce que, au moins à ce niveau, qu'il y ait aussi cet ordre-là. Voilà mes préoccupations.
Monsieur le ministre.
Merci beaucoup, cher ami Donat. Bon, pour le retrait du diplôme au niveau universitaire, vous avez raison pour toutes ces formalités. Bon, il faut se rassurer vraiment que le diplôme qu'on donne au lauréat, c'est un diplôme valable, donc pour éviter le faux. C'est vrai que ça prend un parcours du combattant. Et imaginez un peu que le ministre puisse signer 20 000, 30 000 diplômes, c'est vraiment une difficulté, ce qui fait que ça c'est lourd et ça traîne un tout petit peu. Dernièrement, nous avons posé la question aux professeurs, aux recteurs et autres pour réfléchir quand même pour qu'ils vérifient et qu'ils examinent comment on peut faire signer ces diplômes par d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas centraliser de cette manière que tous les diplômes soient signés seulement par le ministre. Bon, les diplômes gratuits, on note, on pourra voir, hein, je crois que ça c'est, je n'ai pas une réponse à vous donner tout de suite, ainsi que pour la bourse d'études. Nous examinons ça, on pourra vous donner une réponse au moment opportun.
Monsieur le ministre, on va terminer cette émission. Vous savez qu'on sait que la question principale de cette émission, c'était comment capitaliser cette appréciation de l'extérieur sur les avancées obtenues dans les secteurs de l'éducation en RDC. Et lors de ces assises, il y a eu quand même des promesses qui ont été faites, notamment par le Fonds mondial de l'éducation, autour de 100 millions de dollars. Alors, on aimerait savoir quelles seraient les priorités, et d'abord par rapport à tous les défis qui restent à relever.
Oui, c'est le partenariat mondial pour l'éducation.
Mmh.
C'est une structure qui gère l'éducation à travers le monde. Ils ont finalement accepté le Congo dans parmi les membres. Hein. C'est pourquoi ils ont voulu à ce que le Congo soit là et que partage l'expérience avec d'autres pays. Ils ont donné 100 millions, 100 millions. Et les 100 millions, comme je l'ai dit, nous restons toujours dans nos trois axes prioritaires. Il y a l'axe accès en faisant de sorte que beaucoup d'enfants aillent à l'école. Et ça, le volet qui a été privilégié, c'est le volet construction d'école. En ce qui concerne l'amélioration de la qualité, il y a la formation des enseignants, mais aussi la distribution gratuite des manuels. Et les manuels sont déjà commandés et sont en train d'être livrés dans toutes les provinces éducationnelles. Et nous pensons que d'ici la rentrée scolaire 2014-2015, les manuels seront déjà dans nos écoles. Et enfin, c'est l'appui à ce qu'on appelle au niveau du ministère les bureaux gestionnaires, les écoles conventionnées catholiques, Kimbangis et autres. Toutes ces structures pourront avoir quand même des subsides pour leur permettre d'encadrer la gratuité au niveau de leur, au niveau des provinces. Voilà ce que nous allons faire avec les 100 millions de dollars américains.
Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci beaucoup, JR.
Allô? Allô? Mais il ne répond pas?
Merci. à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci également à Paul Badeniam qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Noéla Luzitu et présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngata. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net et en rediffusion ce soir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.